Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale.
Arr, hey, you are.
African it on the money.
La fusion de toutes les cultures.
Rassemblement de tout le peuple.
Sur Radio Campus F. Sur Radio Campus F.
Voici la minute du droit. La minute du droit, c'est un programme d'éducation aux droits humains. La minute du droit, c'est un programme d'information et de sensibilisation aux droits et obligations des justiciables lors des différentes phases de la procédure pénale au Cameroun. C'est un programme radiophonique interactif réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise de Affaires Global Canada et l'appui technique de l'ONG internationale suisse International Bridges to Justice. La Minute du Droit, c'est un programme animé par Yvon Mabofé, consultant international en droit de l'homme, avec la participation des professionnels du droit à l'instar de Kabra Libi, journaliste, juriste internationaliste et expert en droit de l'homme. Sa Majesté Joseph Raoul Makondo, juriste et expert en droit de l'homme. Le programme bénéficie également de la participation des magistrats, avocats, enseignants d'université et autres acteurs de la société civile. La Minute du Droit, c'est tous les mardis et jeudi de 9h à 9h30 sur Radio Campus UY2. La Minute du Droit, c'est le droit à votre portée, un programme au service du droit et du développement.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Radio Campus, bonjour et soyez une fois de plus les bienvenus à cette énième, disons-le comme ça, édition de la Minute du Droit. La Minute du Droit, nous ne cesserons de le rappeler, est un espace d'échange et une plateforme d'information et de sensibilisation sur l'ensemble de nos droits fondamentaux protégés par les textes nationaux et internationaux. Mais c'est également un outil de dénonciation des abus et violations des droits humains commis lors des différentes phases de la procédure pénale au Cameroun. Vous, votre plus proche parent ou une connaissance avez été victime d'une violation des droits humains, n'hésitez pas à nous en parler ce matin. Nous espérons ici en studio vous édifierons assurément sur ces sujets débattus, sur les sujets débattus et sur les questions posées. Et ce matin, nous avons encore le privilège de les recevoir en studio. À ma droite, ou à ma gauche, je vais commencer par ma gauche, à tout seigneur, à tout honneur, Sa Majesté Joseph Raoul Makondo. Sa Majesté, bonjour.
Bonjour Yvon, bonjour à Maître Payet, bonjour à Kabar, qui vient présenter dans ce studio. Bonjour aux nombreux auditeurs de la Radio Campus. C'est toujours... Bonjour Yvon. Bonjour Maître Bailly, bonjour Cabral qui vient de faire son entrée dans ce studio, bonjour aux nombreux auditeurs de la Radio Campus, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver dans ce studio pour aider une fois de plus la société camerounaise à se désembourber de la barbarie et à progresser.
Merci Sa Majesté, je sens que ce matin ça sera vraiment très chaud. Alors nous avons aussi l'arrivée, nous notons ou nous enregistrons, un nouvel expert en la personne de Maître Baye Juno Alex, qui est avocat au barreau du Cameroun. Maître, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour aux nombreux auditeurs, bonjour à Sa Majesté, bonjour à Cabral.
Et pour clôturer avec la présentation des experts, Cabral qui n'est plus à présenter. Cabral, bonjour.
Bonjour Yvon, bonjour aux auditeurs et à tes prestigieux invités.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs, avant d'aborder avec nos experts la thématique du jour sur le droit à un avocat et éventuellement répondre aux nombreuses sollicitations et questions qui nous viennent des auditeurs et auditrices de Radio Campus, nous allons souffler le temps d'une pause musicale et revenir juste après. Voilà, nous sommes de retour ici en studio et je vais directement adresser la première question compte tenu du temps qui nous est imparti. C'est 30 minutes et 30 minutes c'est souvent très rapide dans ce studio. Je vais directement poser la question comme ça à Sa Majesté. La dernière fois nous nous sommes séparés, on n'était pas, il n'y avait pas une unanimité, on n'avait pas véritablement éclairé ce petit problème de désistement parce que j'indiquais, mais je vais taire bien évidemment le pays, c'est une pratique hein, dans ce pays où il y a X, n'est-ce pas, qui a commis une violation des droits de l'homme et puis il y a Y, lui, n'est-ce pas, qui est le plaignant et puis ils arrivent au niveau de la police. À la police, il y a un petit arrangement à l'amiable. Généralement, les arrangements à l'amiable dans ce pays, c'est compte tenu des alliances hein, communautaires, c'est-à-dire qu'il y a tel qui est le tuteur de tel. Et puis, voilà, on se dit que le problème est arrêté, le problème est fini et subitement, le problème ressurgit chez le procureur. Alors, moi, je pose directement la question. Est-ce qu'un arrangement à l'amiable comme ça, lorsqu'il y a un certain arrangement à l'amiable, directement, il n'y a plus lieu ou il n'y a plus une obligation de saisir le procureur? Est-ce que la saisine du procureur n'est pas nulle, Sa Majesté?
C'est vrai, Yvon, que la fois dernière, on en parlait déjà, mais nous n'avons pas eu assez de temps pour développer. Le désistement au niveau peut-être du conseiller de la gendarmerie, on l'a dit la fois dernière, pourrait, dans une certaine mesure, arrêter les poursuites. Pourrait, ça c'est au conditionnel. Parce qu'il faut comprendre, d'abord, le cas où le désistement est conditionné. Donc, est-ce que le désistement est conditionné par le fait que l'infracteur a remboursé peut-être ou alors a réparé le tort à la victime. Je vous prends un exemple. Si quelqu'un, aujourd'hui, je te demande 300 000 et tu me dis je te porte plainte ou je saisis la gendarmerie comme ça, rien, par rapport à cette affaire, tu dis non mon frère, je souhaite que tu retires ta plainte, je vais te rembourser. Tu dis ok, je te donne d'abord 150 000. Tu désistes et après je vais compléter les 150 000. Si à ce moment, vous donnez 150 000 et je retire ma plainte, et quelques temps après, je me rends compte que vous n'avez pas respecté votre parole, je peux valablement saisir peut-être le procureur pour la même affaire. Il y a aussi des cas où quelqu'un peut véritablement se désister, peut avoir reçu hein, ce pourquoi il a conditionné. Son désistement, ça veut dire, je prends le même exemple de 300 000. Il reçoit effectivement les 300 000, mais par derrière, il va encore voir le procureur pour la même affaire. Là, c'est un cas de mauvaise foi. C'est vrai qu'il est toujours dans son droit de poursuivre l'infracteur. Parce qu'en fait, il faut comprendre, en matière pénale, qu'il y a ce qu'on appelle l'action civile et l'action pénale. L'action civile tend à la demande d'une réparation d'un dommage qui a été causé par un infracteur. Alors que l'action publique, hein, ce qui tend à la sanction, donc l'action civile sanctionne l'infracteur en vertu de la loi. Donc il peut arriver que vous entendiez même au niveau du de commissariat de la brigade, mais au niveau du procureur, on se rend compte que l'atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs était tellement importante qu'on ne peut pas faire
donner suite à ce désistement. À ce moment, donc, comme on le dit, je le dis sous le contrôle du maître, on dit le procureur a l'opportunité de poursuite. Le procureur a l'opportunité de poursuivre. Donc, ce qu'il faut dire pour finir ici, c'est que même si le désistement, même si l'arrangement à l'amiable s'est fait au niveau de, peut-être de commissariat de la gendarmerie, au niveau du procureur, il va apprécier le degré, le niveau d'atteinte de l'ordre public et de mœurs. Dernièrement, il y avait un cas où un certain monsieur d'un certain âge a abusé d'une fille de 13 mois. Dites-moi, ça se passe aujourd'hui comme ça. Est-ce que vous allez, parce que vous avez versé peut-être 30 millions à la famille, que le procureur va estimer qu'il y a plus, ne devrait plus avoir de suite pour ce genre de cas. Voilà un exemple. C'est voilà ce que je pouvais dire sur...
Merci, Sa Majesté. Cabral Libé, est-ce que ce n'est pas une double sanction? C'est-à-dire que, voilà, monsieur, nous sommes arrangés à la police, à l'amiable. Je vous ai donné la somme. Il y a une réparation dont en réalité l'effet est pécunier. Je vous donne la somme que vous m'avez demandée et après... Vous saisissez encore le procureur qui me sanctionne encore une autre fois. Est-ce que ce n'est pas une double peine, une double sanction, j'allais dire?
Non, je pense qu'à la suite de Raoul, il y a deux choses qu'il faut, ou alors une, qu'il faut bien noter. C'est que lorsqu'une infraction est commise, il y a deux victimes. Il y a l'humain, le sujet de droit humain qui peut en être victime. Et il y a la société qui en est également victime. Alors, l'initiative de sanctionner l'infracteur ou de faire réparer l'infraction appartient concomitamment à la personne physique, sujet de droit, qui a subi les dommages liés à l'infraction et le ministère public, qui est représenté par le procureur, on parle généralement de parquet et tout le reste, et qui peut poursuivre l'infracteur pour réparer le tort causé à la société. Donc, du coup, une fois qu'on a saisi cette nuance, la réparation du sujet direct de droit qui a subi l'infraction par un arrangement amiable au niveau du commissariat, ne dispense pas le ministère public, c'est-à-dire l'État, à poursuivre l'infracteur pour réparer le tort commis globalement à la société. Donc maintenant, tout dépend des cas de figure, comme le disait Raoul tout à l'heure. Mais globalement, un arrangement amiable provoque généralement l'extinction, l'extinction des poursuites. Maintenant, si la personne n'est pas satisfaite, parce que seule l'insatisfaction de celui qui a subi l'infraction peut l'amener à aller plus haut. En fait, s'il y a un arrangement amiable, j'estime que le tort que j'ai subi est réparé et que je prends un engagement, parce que souvent les arrangements amiables, c'est Raoul qui le rappelait la dernière fois, sont sanctionnés généralement par des documents. Bon, alors, si je reconnais par un document que le tort que j'ai subi a été réparé, bon, ce qui est sur le document, c'est l'engagement théorique. Mais si par la suite, dans la pratique, ce n'est pas suivi des faits, je me réserve le droit d'aller plus haut. Ça, c'est clair.
Alors, avant peut-être de poser également la question à Maître, je rappelle aux auditeurs que vous avez la possibilité de nous appeler au 653-81-19-18, 653-81-19-18, ou encore au 242-00-65-38, 242-00-65-38, ou alors de nous envoyer des SMS directement au 655-44-60-92, 655-44-60-92, ou au 673-68-92-44, 673-68-92-44. Je reviens à vos maîtres. Les arrangements, généralement, dans cette partie du territoire ou dans cette partie du monde que je vais encore taire, je vous ai dit que ça exaltait quelque part les liens communautaires, c'est-à-dire que ça, la bonne ambiance entre les communautés. Alors, il y a des liens entre, des alliances entre nos différentes communautés, les arrangements sont généralement à l'amiable. On refuse de saisir le procureur. Alors, lorsqu'il y a la saisine du procureur, on se rend bien évidemment compte qu'il y aura une rupture de cette alliance communautaire. Alors, vous, en tant que magistrat, comment vous sensibilisez cette communauté-là? C'est-à-dire que si vous venez, comment est-ce que vous allez les sensibiliser pour les montrer qu'en réalité, il y va quand même de l'intérêt public? Qu'est-ce que vous dites?
Le problème qui se pose généralement avec l'avantage même des arrangements, c'est qu'en fait, ils mettent fin à une forme de guerre. Parce que nous, en tant qu'avocats, on sait que lorsque... on se retrouve devant les juridictions, il y a des choses qui se passent qui sont carrément hors de contrôle. Et il vaut mieux généralement passer par ces arrangements. un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Mais il se pose également un souci, et c'est là où je rejoins mes deux panélistes. Ils ont dit quelque chose de très important. Le désistement d'une des parties, dans certains cas, n'éteint même pas l'action publique. Parce qu'il existe des infractions qui, malgré le désistement, continuent à produire leurs effets. Lorsqu'on engage une action publique, elle va continuer jusqu'à la fin, jusqu'à la condamnation même parfois. Je prends deux cas. Lorsqu'on poursuit quelqu'un, on porte une plainte pour diffamation. Lorsqu'il y a désistement de la personne qui a subi la diffamation, l'action publique prend fin. Mais maintenant, lorsqu'il y a par exemple un vol, nous on a eu un cas par exemple où notre client était poursuivi pour un vol de 42 millions par son association. Alors l'association a posé un désistement, mais l'action publique a continué son cours. Parce qu'il faut qu'il y ait une décision de justice. Comme le disait Cabral, c'est une atteinte à la société. C'est-à-dire que c'est la société qui est blessée par ces actes. Il faut maintenant que ces actes connaissent des sanctions.
Donc c'est-à-dire que malgré le désistement, on ne peut pas s'attendre à un non-lieu à la fin.
Dans certains... Non, pas forcément.
Il peut avoir condamnation.
Oui, il peut avoir condamnation. Donc, il existe des cas comme ça. Et il faut, comme vous le disiez, il faut forcément qu'il y ait une décision de justice parce qu'il faut qu'il y ait une réponse de la société face à ces faits.
Merci Maître Baillé. Je rappelle encore à nos auditeurs que vous avez la possibilité d'interagir avec nos experts ici. Nous avons Maître Baillé Juno Alex qui est avocat au barreau du Cameroun. Nous avons Cabral Libi, nous avons Sa Majesté Joseph Raoul Makondo. Le panel il est bien fourni, donc vous avez la possibilité d'interagir avec nos experts au 653-81-19-18, 653-81-19-18 ou au 242-00-65-38, 242-00-65-38, ou encore de nous envoyer des SMS au 655-44-60-92. Cabral, je reviens à vous. Aujourd'hui, oui Cabral?
Oui, je voulais juste ajouter, peut-être pour qu'on soit totalement, peut-être pas complet, mais un élément nouveau quand même. C'est qu'il ne faut jamais oublier, et Maître a bien fait de relever la typologie des infractions tout à l'heure dans les exemples illustratifs qu'il a pris. En fait. Et n'oublions jamais que le juge peut s'auto-saisir. Hein. Je pense, je me rappelle plus très bien de l'article du code de procédure pénale qui le dit. Là, c'est ce qu'on appelle, en fait, si on voit après les termes compliqués, la saisine proprio motu. C'est-à-dire que le procureur, une fois qu'il y a une dénonciation publique, même à la radio, vous voyez ce qui se passe ces jours-ci dans des environnements démocratiques beaucoup plus développés comme en France ou ailleurs. Une dénonciation de médias partout, du Figaro ou du Canard Enchaîné, provoque immédiatement une information judiciaire. Mais ça existe aussi chez nous, mais on l'oublie souvent. C'est pour ça qu'on interpelle souvent les journalistes en leur disant, à chaque fois que vous avez mis quelque chose à la une, quand vous dites, Maître Baillé est un homme dangereux, il a volé 100 milliards. Un procureur de la République est fondé, après avoir regardé la revue de presse le matin, d'ouvrir une information judiciaire et de convoquer Maître Baillé pour en savoir plus. C'est-à-dire que chaque fois, eux, ils sont les gardiens, c'est ce que je voulais préciser, eux, ils sont les gardiens de la société.
De la moralité publique.
De la moralité publique. C'est-à-dire qu'une fois que vous posez un acte infractionnel, n'oubliez jamais que la seule victime n'est pas la personne directe que vous voyez devant vous, mais c'est la société entière. Et qu'il y a des gens qui sont à l'écoute et qui sont gardiens ou protecteurs de cette société entière, qui est en apparence impersonnelle. Mais eux, ils peuvent décider de vous poursuivre, même lorsque vous avez détourné l'argent de votre association. Pour peu que lui l'ait au courant, directement même ou indirectement, il peut décider de vous poursuivre. Et du coup, un désistement amiable ne l'empêchera jamais de vous poursuivre. Je pense, en fait, ce n'était même pas un élément nouveau. Je voulais juste apporter un peu plus de...
Merci, Cabral. On va justement continuer avec vous, hein, Cabral. Alors, la dernière fois, vous l'avez indiqué ici, que le Cameroun était parti au pacte international relatif aux droits civils et politiques qu'il a ratifié, je crois, en 1984. Et dans son article 14, hein, alinéa 3, ce pacte garantit à toute personne accusée d'une infraction pénale un ensemble de droits, notamment celui de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. Mais qu'est-ce qu'on entend par facilité nécessaire pour la préparation de sa défense? Il s'agit de quoi concrètement? Qu'est-ce que le pacte veut explicitement dire pour un citoyen là?
Non, mais il me semble que les termes sont suffisamment clairs. C'est-à-dire qu'il faut toujours les comprendre à l'inverse. Il ne faut pas poser d'actes susceptibles d'entraver la défense d'un prévenu. Et on l'a évoqué dans de précédentes émissions ici. Une fois que vous êtes poursuivi, d'abord vous jouissez. Ça a été repris par le préambule de notre Constitution, de la présomption d'innocence. Tant que l'irréfutabilité des faits qui vous sont reprochés n'est pas encore apportée, vous êtes présumé innocent. Et vous avez tout à fait le droit de vous défendre. Et on l'a noté ici, c'est toujours bien de le rappeler. Et on prenait l'exemple des films américains. Chaque fois qu'on arrête quelqu'un, on lui dit toujours qu'il a le droit de garder le silence et qu'il a le droit de se faire assister. Du coup, d'ailleurs, dans les auditions, je pense que le code de procédure pénale le précise très bien, on commence d'abord par vous dire que vous avez le droit de vous taire, c'est-à-dire l'officier qui vous auditionne, et que vous avez le droit d'appeler un avocat. Donc, si vous appelez un avocat, il vous laisse appeler cet avocat et ça répond à votre question. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, moi je ne veux pas répondre à vos questions sans la présence de mon avocat, et parce que l'avocat est peut-être dans les embouteillages, on vous dit, écoutez, nous on n'a pas le temps, on doit fermer le commissariat, on a des descentes à faire, monsieur répondez aux questions. Non, non. Ça, c'est une entrave à cette facilitation. Donc, à la vérité, une fois que vous avez le droit de vous défendre, quand on parle du conseil ici, c'est-à-dire maître là, vous avez le droit d'appeler un avocat qui vous assiste. Si vous êtes malade, on l'a dit par exemple, et que vous n'êtes pas en disposition mentale de répondre sérieusement aux questions, on a même le droit de faire venir un médecin. Vous avez le droit de faire venir un médecin et de laisser le médecin vous ausculter. Et si ce médecin estime qu'il vous faut un repos, médical.
Cabral,
on a l'obligation de vous laisser.
On nous signale qu'on a un appel. Oui, allô, bonjour.
Bonjour.
Oui, vous êtes et vous appelez de quel quartier?
Oui, je suis Monsieur Amogou.
Oui, Monsieur Amogou.
J'appelle depuis Bastos.
Merci, Monsieur Amogou. Vous pouvez poser votre question à Monsieur Amogou.
Oui, je voudrais poser une question. Est-ce que le commissaire de police ou le commandant de brigade a le droit de prendre de l'argent à un accusé ou à un plaignant pour le défendre?
Alors, c'est une très bonne question, monsieur.
Et oui, est-ce que cela est autorisé par la loi? Ou encore, si c'est non, est-ce que celui qui a versé cet argent au commissaire ou encore au commandant de brigade, est-ce qu'il peut saisir le procureur dans ce cas-là?
Merci, Maître Amogo. Directement, je vais poser la question à Maître. Maître, je crois que la question s'adresse à vous, Maître Baillé.
Bien évidemment. Je voudrais simplement rappeler à cet auditeur que les officiers de police ou commissaires ne sont pas des avocats. Alors, ils n'ont pas droit à des honoraires, parce que verser de l'argent à un commissaire ou à un officier, c'est lui verser des honoraires pour vous défendre. Et ça, c'est totalement interdit. Ils ont un salaire, ils sont payés pour ça. Ils ne sont là que pour faire des enquêtes. Et qui dit enquête, qui dit enquêteur impartial. À partir du moment où vous donnez de l'argent à un officier de police, l'enquête est déjà biaisée. Malheureusement, ce sont des choses que nous rencontrons régulièrement. Nous n'allons pas nous mettre à citer les gens, mais ce sont des choses qu'on rencontre.
Alors, Monsieur Amogou a dit, est-ce qu'il peut saisir le procureur?
Saisir le procureur dans quel sens? Parce que
c'est pour avoir donné de l'argent, est-ce qu'il peut, évidemment, faire recours au procureur et dire, voilà, ce monsieur vient de m'escroquer de l'argent au commissariat et tout ça?
Le problème dans ce cas, dire que ça dépend des raisons pour lesquelles on veut saisir le procureur. Si on veut saisir le procureur pour escroquerie, c'est autre chose. Les officiers de police judiciaire bénéficient d'une procédure bien particulière. Mais maintenant, saisir le procureur, par exemple, si on est la partie adverse, on peut demander au procureur de dessaisir cette unité de cette enquête. C'est-à-dire de lui dire que voilà, l'enquête est menée dans telle unité, mais cette unité n'est plus impartiale. On peut demander librement à transférer cette enquête.
Ok, oui, Sa Majesté.
Même dit encore, ils vont à la suite de mettre, c'est qu'il s'agit même là d'un acte de corruption.
Bien sûr.
Un commissaire de police, un commandant de brigade n'est pas un avocat. Il ne peut pas demander l'argent à une partie pour le défendre ou pour la défendre. Ce n'est pas normal. Que de saisir même le procureur ici, parce qu'il faut saisir la CONAC. C'est la CONAC qui est incompétente parce que nous sommes là dans une affaire de corruption. Et le monsieur en question doit saisir la CONAC. Si vous avez des preuves de ce qu'il vous a demandé de l'argent, vous pouvez même le piéger, avoir des témoins, hein, et tout faire pour qu'il tombe dans ce qu'on appelle votre piège, dans votre acna, et vous saisissez la CONAC. Ça se passe comme ça. Je l'ai vu dernièrement chez moi, il y a un cas où un monsieur demandait de l'argent pour établir de faux, comment on appelle, de faux permis de conduire aux citoyens. un noble citoyen. Et il a été piégé. La CONAC a fait une descente sur le terrain, on l'a pris la main dans le sac. Donc, si vous avez un cas, un gendarme, un commissaire, un commandant vous demande l'argent pour vous dépendre dans une procédure, alors saisissez la CONAC, ça y est, là d'un cas de corruption.
Merci, Sa Majesté, merci, Maître, pour ces éclairages, disons comme ça, pour ces orientations. Alors, Cabral Libé, pour revenir dans le même cas, qu'est-ce qui peut arriver à un commissaire qui prend de l'argent également pour régler, n'est-ce pas, un différend comme ça entre deux parties? Il prend de l'argent, après il dit, bon, ça va, on ne parle plus chez le procureur, l'affaire est close, on arrête ici.
Alors, moi, ce qui me plaît dans cette intervention, c'est que ça nous ramène, en fait, au sujet qu'on évoquait tout à l'heure, celui de la facilitation du droit de se défendre. Parce qu'effectivement, ça, c'est une entrave à cela. C'est-à-dire, et ça tombe bien, parce que en fait, l'inculture juridique fait que, effectivement, un citoyen naïf peut penser qu'un procureur peut se muer, qu'un commissaire ou un gendarme peut se muer un matin en avocat et le défendre. Non, c'est de l'extorsion. Et je suis d'avis avec Maître qu'il s'agit même là d'une escroquerie qui peut fonder une action judiciaire ou alors une action en dénonciation auprès de la CONAC. Donc, ce qui peut arriver à ce commissaire, c'est bien ce que nous avons suivi. C'est-à-dire qu'il peut être recusé dans la conduite de l'enquête au niveau du parquet au motif qu'il n'est plus impartial parce qu'il a pris de l'argent. Bon, encore que Maître ne me démentira pas, la difficulté peut être en ce moment de le démontrer, ce qui n'est pas toujours évident en matière de corruption, sauf quand on est piégé, comme dit Raoul, qu'on prend la main dans le sac. Donc on peut le récuser, mais il peut également... Et on oublie aujourd'hui, pour le cas spécifique de la police et même de la gendarmerie, il y a aujourd'hui des démarches administratives qu'on peut mener. Il y a des numéros verts qui existent aujourd'hui au niveau de la police, par exemple. Et je crois aussi au niveau de la gendarmerie, mais davantage au niveau de la police, que vous pouvez appeler directement. Il y a toujours des gens de l'autre côté qui vous répondent. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Vol de téléphone... Et on veut retrouver, on veut géolocaliser le téléphone et on va au niveau d'un commissariat et puis l'inspecteur qui est saisi demande 10 000 francs par opérateur de téléphonie pour faire la demande, pour faire la réquisition. J'ai simplement appelé au niveau de la DGSN pour, pour qu'il me confirme qu'il faut payer 10 000. C'était un scandale là-bas. Il disait, mais quel 10 000 on doit pas... Donnez-nous immédiatement le nom de cet inspecteur pour qu'il soit ramené à l'ordre. Et je pense qu'aujourd'hui, même par courrier, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent saisir le DGSN et qui trouvent une suite à cette démarche-là. Donc, il faut bien que les gens sachent que les gens qui font ça s'exposent à de lourdes sanctions administratives et judiciaires. Mais pour revenir à la question que vous m'avez posée et qui me paraissait... qui s'enrichit de cet exemple et de cette intervention, c'est qu'effectivement, il y a un large panel, ce qu'on entend par facilitation, c'est-à-dire tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, peut entraver le droit. C'est un droit fondamental pour le citoyen, c'est ce que ce passage veut dire. Il a le droit de se défendre. S'il ne se sent pas bien, il a le droit de se faire d'abord assister médicalement et de se sentir bien par la suite pour répondre aux questions. S'il a le droit, il veut un avocat, on doit le laisser trouver un avocat. Donc tout ce qui est susceptible, on a parlé de consommation, d'administration de substances psychotropes, drogues, tout ce que vous voulez, qui peuvent d'une façon les intimidations, les menaces. C'est-à-dire si à un moment, celui qui vous interroge commence à vous interroger sur un ton qui est bizarre, menaçant, voulant absolument vous pousser à dire des choses ou à écouter l'audition, vous avez tout à fait le droit de vous arrêter. Et il faut que les gens l'intègrent, que j'ai envie de dire souvent, comme on dit dans une boutique, que le client est roi, j'ai envie de dire souvent aux prévenus que tant qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence, ils sont des prévenus rois, qu'ils se trouvent en gendarmerie ou en commissariat.
Merci, Cabral.
Et la proximité d'une porte de cellule ne doit en aucun cas vous affecter moralement, parce que même si on vous y met illégalement, vous avez toujours le droit de vous défendre.
Merci, Cabral. Alors, Maître Baillet, est-ce qu'un suspect peut préparer sa propre défense? Si oui, à partir de quelle phase de la procédure pénale vous conseillerez, par exemple, à un suspect de préparer sa propre défense? Enquête préliminaire, instruction ou jugement? Quelle est la phase la plus appropriée?
À proprement dire, il n'y a pas de phase appropriée. Il n'y en a pas parce que, généralement, lorsqu'on prend... Les suspects sont souvent victimes, comme disait le Cabral, d'inculture juridique. Et ça fait que, à certains moments, lorsqu'ils sont devant les officiers, il y a d'abord la peur de l'autorité. Et ensuite, s'ajoute le fait qu'ils ne comprennent même pas ce pourquoi ils sont poursuivis. Et ça fait qu'à ce moment-là, ils se mettent à faire des déclarations qui peuvent leur être préjudiciables. Donc, il est mieux à chaque fois, à toutes les phases du procès pénal, d'avoir un avocat. Il est très primordial même. Mais malheureusement, déjà, on a beaucoup de difficultés parce que les avocats ont ces difficultés-là d'assister même les suspects. Parce que lorsqu'ils sont inculpés, c'est autre chose. Là, les juges d'instruction sont généralement obligés de... Enfin, ils ne sont pas obligés, ils ont plus la diligence du respect des normes. Mais au niveau des services de police, c'est une véritable calamité.
Merci, Maître Baye. Sa Majesté, est-ce qu'il existe des textes dans l'ordre international, textes internationaux et nationaux qui garantissent ou qui protègent ce droit-là, le droit de se faire assister par un conseil, d'avoir un avocat?
Effectivement, il existe des textes sur le plan international et sur le plan interne. Au plan international, le Cameroun est parti au pacte international relatif aux droits civils et politiques depuis 1984. Vous savez que dans son article 14, le présent pacte fait obligation aux États parties de concevoir un ensemble de garanties pour protéger toute personne accusée d'une infraction pénale. Il s'agit notamment de prendre des mesures afin que l'accusé dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec son conseil. Aussi, sur le plan interne, nous avons le nouveau code de procédure pénale qui précise que l'officier de police judiciaire est tenu, dès l'ouverture de l'enquête policière et à peine de nullité, d'informer les suspects de son droit de se faire assister d'un conseil. Il est donc clair que sur le plan interne et sur le plan international, nous avons les garanties textuelles de l'assistance du prévenu ou du suspect par un conseil.
Mais qu'adviendrait-il, Cabran Libé, au cas où on ne respecte pas ces dispositions, n'est-ce pas, qui protègent ce type de droit dans l'ordre international comme dans l'ordre interne? Qu'est-ce que l'État encourt comme responsabilité? Jusqu'à quel niveau ça peut engager la responsabilité de l'État?
La réponse, elle est toute simple. Et c'est pour ça que j'aime bien les formulations des textes juridiques. Tout à l'heure, lorsque Raoul nous donnait la substance d'un certain nombre de dispositions, il a dit quelque part « à peine de nullité ». À peine de nullité. Donc il faut savoir que toute procédure qui est entreprise et qui comporte le vice du défaut d'octroi ou de respect du droit du prévenu de se défendre, cette procédure sera frappée de nullité. De toute façon, une fois qu'en instance supérieure, le conseil ou le prévenu lui-même fera savoir qu'on ne lui a pas donné la possibilité de se défendre, eh bien, ce sera nul. On va tout recommencer, aussi simple que cela.
Maître Baye.
Oui, je confirme tout simplement. C'est-à-dire que ça fait partie des exceptions. Des exceptions, on peut soulever une exception de nullité. Et là, il s'agit d'une nullité d'ordre public. Parce qu'à partir du moment où des règles procédurales ne sont pas respectées, ce sont des nullités d'ordre public qui peuvent être même constatées par le juge. Mais généralement, ce sont les avocats qui les soulèvent. Ils soulèvent ces nullités-là. Donc...
Alors, maître, on a peut-être une question. Maître, bonjour à vous. S'il vous plaît, dites-moi quels sont les services censés être payés au commissariat ou à la gendarmerie Yves de Mangué?
Aucun service. Aucun. Parce que les services de police, de gendarmerie sont là pour assurer l'ordre public. Ils sont payés pour ça.
Il n'y a rien qu'on paye à la gendarmerie ou au commissariat?
Rien.
Rien du tout.
Rien. En principe, c'est comme on le disait tout à l'heure, ce ne sont pas des avocats. Et c'est justement la difficulté même qu'ont les avocats actuellement. C'est-à-dire qu'il y a un tas de personnes qui se muent en avocat. Tout le monde peut faire le travail de l'avocat, tout le monde. Et je vous assure, même aujourd'hui, lorsque un officier de police ou un enquêteur voit un avocat, mais l'avocat devient son ennemi au point où, je vous assure, il y a des cas qu'on recense aujourd'hui où les avocats sont molestés.
Ah bon?
Oui. Et imaginez-vous un seul instant. Vous êtes un suspect. Vous voyez, on moleste votre avocat. Vous pouvez vous imaginer ce que ça fait psychologiquement. C'est très grave.
Oui, ça, c'est très
Il y a
grave.
Des cas comme ça. Il y a des cas où on interdit à l'avocat l'accès, même le fait de causer même avec son client. Ce sont des choses très graves. Mais pour répondre très simplement, il n'y a aucun service.
Mais quels sont les recours, maître? En cas de tels abus, pour de tels abus, de telles violations, quels sont les recours?
On saisit le procureur. On saisit le procureur qui va offrir une...
Un avocat qui est molesté, qu'est-ce qu'il fait?
Déjà, en réalité, toutes les procédures pour lesquelles les avocats sont impliqués, on saisit très rapidement le conseil de l'ordre. C'est le conseil de l'ordre, généralement, qui s'occupe d'engager des procédures. Donc, généralement, c'est ça.
Merci. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'interagir avec nos experts en appelant directement au 653 81 19 18 ou au 242 00 65 38 ou encore au 655 44 60 92. Sa Majesté.
Ce que je veux ajouter, c'est qu'il y a toujours eu une cohabitation très difficile entre les avocats et les enquêteurs au niveau de la gendarmerie, au niveau du commissariat. Parce que, en fait, l'habitude, la tradition voudrait qu'il y ait certains abus au niveau de ces différentes instances, au niveau de la gendarmerie, au niveau du commissariat. Yvon, ce n'est qu'avec le nouveau code de procédure pénale qu'on a même consacré l'assistance du suspect par son avocat au niveau de l'enquête policière. Les enquêteurs savaient que c'était une affaire. Il gérait les suspects comme il voulait, comme il l'entendait. D'autant plus qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait, avant le nouveau code de procédure pénale, il existait ce qu'on appelle le code d'instruction criminelle. Ça veut dire que c'est à partir de l'instruction qu'intervenait l'avocat, le conseil. Aujourd'hui, il s'accommode mal, ces enquêteurs au niveau du commissariat de la gendarmerie, de la présence de l'avocat au niveau de l'enquête policière. Pourtant, c'est institué par les textes. Il faut bien qu'ils apprennent à respecter ce texte.
Cabral, oui.
Oui, alors moi je me réjouis et de la présence d'un avocat dans ce studio et de ce que ce dernier a dit tout à l'heure, que tout le monde se mue désormais en avocat. Moi-même qui vous parle, qui suis juriste par ailleurs, quand il s'agit d'une procédure préliminaire ou judiciaire, je saisis moi-même un avocat. Parce que eux, ils sont formés pour ça, c'est leur travail. Ils connaissent les subtilités de la procédure. Ils savent comment attaquer. Vous n'avez eu de cesse de parler de recours. Ils savent comment et quand, dans quel délai on exerce des recours. Et il faut que les Camerounais qui nous écoutent intègrent que l'avocat doit être pour chaque Camerounais son allié du quotidien. Pour tout. C'est-à-dire même, on voit souvent même dans les films, même lorsque les policiers interpellent un automobiliste pour, je ne sais pas, une affaire de carte grise, il appelle immédiatement son avocat, il dit... Ne bougez pas, mon avocat arrive. Et il faut que cette culture s'installe.
On doit promouvoir un peu la culture.
Oui, parce que, comme Raoul le disait tout à l'heure, autant au niveau des commissariats et autres, vous savez, ce code dont on parle, la date de 2007, son entrée en vigueur effective, je pense que c'est 2007, donc il y a 10 ans seulement. Donc vous vous doutez bien que ceux qui étaient habitués à faire ce qu'ils voulaient, vous savez, c'était une règle dans les commissariats que de battre les gens. Mais jusqu'aujourd'hui encore, vous voyez ça dans les commissariats. Quelqu'un arrive, on le racle d'abord. Et vous vous demandez, mais pourquoi on racle ? Monsieur, déshabillez-vous. Et vous tardez un peu, vous allez à gifler. Bon, ça, c'est des choses.
C'est même
qui
la gifle
existent.
Que vous envoie en cellule.
Et parfois, c'est un coup de pied aux fesses qui vous pousse dans la cellule. Pour avoir déjà dormi plusieurs fois en cellule, je sais comment on les pousse dans les cellules, souvent à certaines heures de la nuit. Et ça, c'est des abus. C'est-à-dire que c'est j'ai envie de dire que c'est les restes, si on peut parler prosaïquement, de mauvaises habitudes. Et il faut donc...
Ils ont la peau dure.
Ils ont la peau dure, hélas. Et c'est normal, vous savez, une chose qu'on a faite depuis des décennies. Maintenant, il faut que les gens aussi apprennent à avoir des avocats, à appeler des avocats. Un bon citoyen doit toujours avoir dans son téléphone, le mien que vous voyez posé là, il a au moins 5 numéros. Je vais encore prendre celui de Maître Bailly tout à l'heure. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux appeler un avocat, il est en mission. Tu peux appeler un avocat, il est en train de plaider. Donc, il faut toujours avoir au moins 4 à 5 numéros d'avocat dans son répertoire téléphonique. C'est très important. Il faut. Aujourd'hui, les gens disent, parce qu'il faut les payer. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous préférez ? Payer un avocat pour qu'il vous sorte d'affaires ou payer de votre liberté indûment et frauduleusement dans un commissariat ou une gendarmerie ?
Merci Cabral, 8 mètres.
Oui, je voulais ajouter une petite chose. C'est que, fort heureusement, le code a prévu que les procès-verbaux d'enquête ne sont que des éléments d'information. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur un procès-verbal d'enquête préliminaire pour condamner quelqu'un. Parce que lorsque vous remarquez, 99,99% des procès-verbaux d'enquête préliminaire arrivent avec ce qu'on appelle des aveux. C'est-à-dire que systématiquement, lorsque vous êtes entendu au niveau des services de police, vous avouez.
C'est curieux quand même.
Mais c'est très grave. Nous, on a assisté à ces choses. C'est-à-dire qu'on moleste, on vous met dans des conditions qui sont telles que vous ne pouvez qu'avouer. Et c'est
La chance qu'on a, c'est qu'après cette phase de police, nous sommes devant le juge d'instruction. Et devant le juge d'instruction, vous constaterez que dans la plupart des cas, il y a une contradiction entre ce qui a été dit au niveau de l'enquête et devant le juge d'instruction.
Merci.
C'est là qu'il y a le mini-procès. Donc, procès confirmation des charges.
Voilà.
Merci. Merci à vous, chers experts. Merci à vous, Maître Baillé. J'espère que vous serez là jeudi, si Dieu le veut.
Si Dieu le veut.
Nous allons poursuivre certainement avec... Oui,
c'est la dernière fois qu'on évoquait cette question et tu nous demandais est-ce que quelqu'un peut, en instruction, nier
tout à fait
ce qu'il a dit. Mais oui, vous avez écouté, Maître. Mais si vous avez molesté quelqu'un et que vous l'avez intimidé, une fois qu'il se sent en sécurité devant le juge d'instruction, il va dire là où vous voyez là. J'avais dit ça là parce qu'un individu était devant moi avec une matraque. Maintenant,
et le juge d'instruction n'est pas tenu de suivre ce qu'il y a dans le procès verbal. Maître l'a dit d'ailleurs. Il n'est pas tenu.
Merci.
C'est pour ça qu'il y a ce procès qu'on appelle ce jugement, de ce mini-procès pour la confirmation des charges avant de passer au jugement proprement dit.
Et je rappelle à nos auditeurs que peut-être nous allons revenir sur la question, Maître Baillé, Cabral Libi et Sa Majesté Joralou Makondo, sur bien évidemment les contradictions qu'il y a dans les différents procès-verbaux, c'est-à-dire qu'à l'enquête préliminaire, comme chez le juge d'instruction, généralement il y a des gens qui disent que non, je n'avais pas dit ça ou je l'avais dit, comme Cabral indiquait la semaine dernière, parce que j'étais sous le coup des menaces et autres. Chers auditeurs de Radio Campus, malheureusement, nous sommes arrivés au temps nous a pris à la gorge, on a dépassé les 5 minutes et s'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver jeudi prochain à 9h et le temps que nous avons c'est de 30 minutes, 9h à 9h30, mais je rappelle déjà que vous pouvez avoir cette diffusion ou cette édition rediffusée ce mardi à 14h ou encore mercredi à 20h. D'ici là, s'il plaît à Dieu, rendez-vous est pris pour jeudi à 9h.
Merci beaucoup, Maître.
Thank you.